Maintenant, on va passer à la deuxième présentation de Natacha Jaferi d'Ombre, qui est donc membre du projet PIND. Tellement membre que maintenant elle fait des présentations qui s'étalent sur deux journées.
Ouais,
et donc ce sera la 3 même. Donc là, c'est la deuxième partie. Donc si vous voulez voir, écouter la première partie, c'est, se trouve sur notre site internet. Et donc le titre aujourd'hui.
Oui, donc c'est une présentation en trois volets, punk, rockers et hippies, des frères ennemis, rupture et continuité. Et la partie d'aujourd'hui, donc ce que le punk doit au beat. Alors l'idée, c'est d'essayer de délimiter notre objet. On voit de plus en plus qu'il est assez évanescent et qu'il peut prendre des directions assez variées. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est un début de généalogie de ce mouvement. Alors, on s'accorde généralement à trouver deux origines géographiques au punk, l'Angleterre et les États-Unis. Et si on suit la piste américaine, il y a quatre groupes qui se détachent principalement. Le MC5, les Stooges, Richard Hell avec Television, puis les Heartbreakers et les Voidoids, et enfin les New York Dolls. Alors avec Tom Verlaine, un autre provincial monté à New York, Richard Hell montre un premier groupe, les Neon Boys, dont le nom est déjà une inscription dans la modernité, même si la lampe au néon date des années 1910, mais il fait partie de l'imaginaire des années 70 et 80, de son esthétique du moins. Et le groupe change de nom, devient Television, un nom tout aussi programmatique et orienté vers une sorte de reflet critique de la vacuité du monde qui les environne, et peut-être une inspiration à la célébrité, je ne sais pas. C'est le premier groupe de cette jeune scène new-yorkaise, en tout cas, qui joue au CBGB. Pour rappel, une scène plutôt pouilleuse, destinée au départ au country, bluegrass and blues, qui deviendra un lieu essentiel du contact entre proto-punk puis punk et leur public. C'est aussi là qu'en plus d'auditeurs passionnés, se créent de nouvelles vocations, comme c'est souvent le cas dans les musiques populaires. Alors je passe sur les autres formations que Richard Hell développera, qui quitte le groupe donc en 75 pour rejoindre des transfuges des New York Dolls, Johnny Thunders et Jerry Nolan. Et très tôt, Hell a mis au point un style vestimentaire qui deviendra, pour les tenants de la thèse américano-centriste, le style punk, donc repris à Londres par Vivienne Westwood et McLaren, donc les cheveux très courts, hirsutes, des vêtements déchirés, dotés de messages souvent inspirés des situationnistes, et puis les fameuses épingles à nourrice. Alors, son style incantatoire, son jeu de scène, eux aussi sont repris par la créature de McLaren, Johnny Rotten, même si Rotten pousse plus loin le jeu scénique, avec plus de violence et moins de détachement que son modèle américain. Donc Television, New York Dolls, Heartbreakers, trois groupes qui ne sont pas encore tout à fait punk, mais qui ont permis son arrivée. Sont les chaînons manquants un petit peu entre la génération rock dont j'avais parlé dans le premier volet et celle du punk. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une deuxième filiation du punk, celle qui lie certains de ces outsiders à la Beat Generation née des années 50. Alors c'est le cas en particulier de Richard Hell, donc, à qui je vais m'attacher plus particulièrement, qui est plus littéraire que les membres des New York Dolls par exemple, ce qui n'est pas très difficile, mais bon, qui a d'autres qualités que n'avait peut-être pas Richard Hell, justement. Et quand, après les Heartbreakers, il fonde en 76 son propre groupe, enfin, Richard Hell and the Voidoids, il sort l'hymne de toute une génération, Blank Generation, sorti en 77, mais en réalité écrit en 74 et joué sur scène en 75. Or, cet hymne est une référence directe, bien que modifiée, moqueuse et désabusée, à la Beat Generation, qui elle-même se référait à la Lost Generation de l'entre-deux-guerres. Le nom de scène, Hell, est déjà une référence littéraire à Rimbaud et sa saison en enfer. Et pour Ross Finlay, que j'ai déjà cité dans ma précédente présentation, pardon, qui a un mémoire sur les racines rock du punk, en American Studies, pour donc Ross Finlay, Richard Hell est, alors je traduis, est le lien direct entre les traditions précédentes, traditions subversives précédentes de l'Amérique, comme le mouvement Beat, Bob Dylan et le rock garage, et le mouvement underground et confrontationnel qui est devenu le punk, donc jusqu'au rock alternatif et indie. Allen Ginsberg, William Burroughs, Bob Dylan, le Velvet Underground, tout ça, c'est des références, des sources musicales et poétiques pour Hell.
singulièrement donc ces auteurs de la Beat Generation. Et Finlay ajoute, les punks, d'une certaine façon, étaient la dernière respiration du mouvement beat. Que le fait que Hell et d'autres punks aient gravité autour de Burroughs est important. Ça différencie clairement ces punks des hippies de la contre-culture. Et finalement, c'est un paradoxe que ces deux mouvements tellement opposés l'un à l'autre, et j'en parlerai dans mon troisième volet, hippie et punk, ces deux mouvements opposés, finalement, ont les mêmes racines, le mouvement beat. Ça sera assez tentant donc de voir dans ces deux mouvements punk et hippie que tout semble opposé, deux rejetons du beat, deux possibilités adverses, des frères concurrents, mais liés finalement généalogiquement. Alors le mouvement beat que tout le monde connaît ici date des années 50. Le terme beatnik, donc je rappelle finalement, n'est pas un mot employé par les beats, puisque c'est un dérivé péjoratif forgé par un journaliste au milieu des années 50, en pleine guerre froide, au moment du satellite Sputnik, satellite russe. Donc c'est une manière un petit peu pour l'establishment de disqualifier ces rebelles qui se veulent sans attache sociale. Le mot beat, en fait, désigne un vagabond hein, dans le vocabulaire américain du début du siècle. En 48, puisque ça commence un petit peu avant 50, en 48, le beat ne désigne encore qu'un minuscule mais significatif trio littéraire et amical. Allen Ginsberg, Jack Kerouac et William Burroughs, que rejoindront plus tard Lawrence Ferlinghetti et Gregory Corso. Et c'est essentiellement de Burroughs que je vais vous parler, puisque c'est celui qui a le plus séduit la génération punk, qui est le plus connu, même si les autres ont été également lus par certains punks, les plus littéraires d'entre eux du moins. Mais Burroughs est vraiment incontournable. Alors je m'appuie sur la thèse d'un jeune anglais, enfin jeune à l'époque, Victor Bocris, qui a fréquenté non seulement Burroughs, mais aussi Warhol et toute sa factory, le Velvet, les membres de Blondie, et j'en passe. Donc Bocris qui défend la thèse, en fait, selon laquelle le punk devrait beaucoup au beat, et que celui-ci aurait en quelque sorte bénéficié d'une sorte de deuxième vie à travers le punk, d'une descendance. Il écrit, les punks de New York proviennent du même ethos que les beats. Je ne peux parler que des punks de New York. C'est-à-dire qu'il y a eu trois générations d'artistes américains qui opéraient sous l'ombrelle d'une réaction commune à la Deuxième Guerre mondiale, donc pour les droits civiques, contre le génocide, contre la bombe. Il y avait donc les beats, les années 50, les artistes des années 60, personnifiés par Warhol, y compris donc les Rolling Stones, Godard, Truffaut, Antonioni, etc. Et enfin, les punks dans les années 70, et tout ça donc étant coalescent à la fin des années 70. Le punk, pour lui, serait un beat speed it up, un beat accéléré, tout comme, écrit-il, les Stones seraient du Chuck Berry, sont du Chuck Berry accéléré. Alors ça reste quand même à voir. Pour lui, donc Blondie, Patti Smith, Television et plus tard Richard Hell, Iggy Pop, etc., ont tous été influencés par Rimbaud, par Céline, par les surréalistes et les comic books, tout comme les beats. Il précise quand même, lui, son objet, c'est vraiment les punks de New York. Le punk de New York, c'était l'influence de Warhol. Son livre, donc Beat Punks, aurait dû s'appeler Beat Warhol Punks, mais il dit ça sonne pas très bien. C'est vraiment le microcosme new-yorkais, donc il place dans cette position d'héritier du beat. Et en effet, le livre rassemble des chapitres tels que Blondie meets Burroughs, My Burroughs by Richard Hell, ou Jory Ramon, A Literary Relationship. Donc ce sont des textes journalistiques, hein, on n'est pas dans la recherche avec Bocris, mais dans le témoignage, puisqu'il a fréquenté tous ces gens. Alors on trouve un certain nombre d'illustrations sur une page web que je vais vous retrouver. Donc ces photos qui vont dérouler témoignent bien d'une sorte de fétichisation de Burroughs, à qui on rend visite un petit peu comme on a pu le faire avec Mandela. Genet, Burroughs et Ginsberg dans une marche à Chicago. Donc Patti Smith, qui n'est pas à proprement parler punk, mais qui est quand même dans ce mouvement un petit peu d'entre-deux, qui l'a beaucoup fréquenté. Strummer, qui est probablement tourné et qui rencontre Burroughs. Blondie, qui n'est pas avec lui, mais enfin qui l'a aussi beaucoup... qui a été beaucoup photographié avec lui. Et on a pour finir Bombo Chris, Uskadu, etc. Je crois qu'on a Kurt Cobain aussi. Certainement, ces échanges ont été féconds et tous ces gens auraient eu tort de se priver de cette ressource, d'un monument vivant de la contre-culture littéraire donc de la génération précédente. Mais pour autant, est-ce que Burroughs a été véritablement le parrain du punk, comme la formule voudrait le laisser croire? Donc j'en ai discuté avec Christophe Baker, qui est là-bas et qui peut-être interviendra tout à l'heure, que j'ai consulté puisqu'il est spécialiste de Burroughs, il a fait une thèse dessus. Et on est assez d'accord tous les deux pour nuancer cette hypothèse. Alors sans doute y a-t-il eu pollinisation des années 70 par les éléments les plus ouvertement subversifs des années 50. Burroughs lui-même se revendiquait comme un continuateur et même un voleur de ce que les prédécesseurs avaient de meilleur. Volé, disait-il, en 77 dans le magazine Crawdaddy, un magazine contre-culturel édité à New York, dans la rubrique qu'il tenait alors, Time of the Assassins, donc toujours Rimbaud. Piller le Louvre, abat l'originalité. Et en substance, donc, abat l'ego créateur, pourvu que la marchandise soit de qualité. Alors on peut avancer cette hypothèse que radicaux, expérimentaux, contre-culturels, les auteurs de la Beat Generation pouvaient concourir au statut de parents du punk. Il faut au moins poser la question. Et certainement, il y a eu une influence. En France, Burroughs se retrouve chez Daniel Darc, qui se revendique de sa filiation, qui l'a traduit, comme il a traduit aussi Laurence Ferlinghetti, un autre poète beat et également éditeur. Elie Medeiros aussi s'y est intéressé, influencé par son compagnon Ramon Chomacha, qui enregistre avec Brian Ginsing, le découvreur officiel de la technique du cut-up, qui en fait vient de Tristan Tzara et des Dada. Et j'aurais tendance à penser que les Dada ont une plus grande importance que les beats, mais on peut encore se discuter sur le punk, j'entends. Patrick Udlin également rencontre Burroughs, et c'est Burroughs qui aurait conseillé à Udlin de devenir chanteur de rock. Alors il dit c'est sans doute pour le draguer, mais voilà, c'est quand même à noter. Il l'invite à un colloque beat, j'imagine que c'est le colloque de Tanger, colloque à Tanger, même si j'ai lu que c'était Marrakech, mais je pense que c'est une erreur. Et il lui écrit une chanson, carrément, il lui tend le feuillet comme ça, dans un geste un petit peu magique, un peu comme il tendrait, d'une façon un petit peu initiatique, et le pousse à entamer cette carrière. En 75, donc, ça se produit, Asphalt Jungle n'existe qu'en 77, donc je ne sais pas s'il a réellement interprété cette chanson, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut noter. Plus tard aussi, Burroughs va offrir une chanson à un jeune groupe punk, The Mortal Micronauts, dans la ville qu'il habite, au Kansas. Il apparaît dans un clip de Ministry, on le voit chez Rem, il collabore avec les survivants des Doors, avec Kurt Cobain. Également, il y a un collage qui est réalisé à partir d'enregistrements de lecture. Donc, il ne chante pas à proprement parler, mais il autorise et il participe donc à un collage entre ces enregistrements de lecture et des parties musicales de Sonic Youth, John Cale, Chris Chine de Blondie. Donc, il y a quand même pas mal de collaborations avec la musique. Et pour revenir au début donc, du punk, il rencontre Patti Smith, on l'a vu tout à l'heure, sa rivale des Buhari, Lou Reed, Rich Adele, donc on a dit les Clash, Sonic Youth, Kurt Cobain, qui est un peu le dernier sorte de continuateur que la presse aimerait désigner. Et sans doute, il était flatté de toutes ces rencontres. Et pourtant, il n'écoute pas de rock. Encore moins du punk. Ses goûts vont plutôt évidemment vers le jazz, éventuellement vers un groupe soufi du Rif marocain que Ginsing lui a présenté, les maîtres musiciens de Djoujouka, qu'il qualifie de groupe de rock'n'roll vieux de 4000 ans. Mais si on réfléchit, en fait, à l'origine du beat, il y a une profonde nécessité de s'arracher aux conventions sociales et morales, de vivre sans entrave. Et dans beat, il y a le verbe beat, beaten, donc la défaite, mais aussi le rythme. La scansion musicale a été un des traits essentiels de la littérature beat, qui était écrite dans une forme souvent spécifique. On pense au rouleau, au ruban du manuscrit de Kerouac sur la route. C'était une littérature aussi lue à haute voix. Ginsberg, par exemple, oralisait avant d'écrire. Et c'est ainsi donc, que le beat est assez naturellement associé au bebop, cette forme moderne de jazz dans laquelle les beats se sont reconnus, bien plus que dans le punk, qui n'existait pas encore, mais en tout cas, Burroughs n'a jamais été tellement tenté par ça. Et donc, le bebop, auquel ils prennent certaines coutumes, comme l'usage de l'héroïne. Ainsi, la prose beat elle-même va se retrouver dans les solos d'un Charlie Parker ou dans les syncopes d'un Bud Powell. De l'autre côté, les lectures comportent souvent du jazz, comme avec Ferlinghetti, qui accompagne donc ces lectures de musique, tandis que des jazzmen comme Charlie Mingus empruntent au beat des formes de narration. On pense enfin à Coltrane avec son psaume dans l'album A Love Supreme, que célébra plus tard Daniel Dark. Et quand Dark se rend dans les lectures beat, ou reprend sur scène le poème de Ginsberg, Hall, I saw the best minds of my generation destroyed, il tente en fait d'aller au-delà de ces années punk et de trouver plus avant, de trouver la source. Alors les beats comme source possible du punk, je dirais qu'en fait certainement ils furent une influence, que certains proto-punks ont flirté avec l'image provocatrice de ces aînés, mais que par bien des points, en fait, punk et beat divergent. Divergent politiquement. On en parlait avec Christophe et peut-être il apportera des précisions. Les beats sont quand même plutôt à droite. Ils sont relativement misogynes. Il y a certainement une influence, mais on ne peut pas qualifier, je pense, le beat réellement de réelle source du punk. On peut cependant voir dans l'ironie, dans le cynisme, dans un certain sens de l'humour noir des auteurs punk et proto-punk comme Hell, un emprunt très conscient au mouvement beat. Et Finlay, donc, que je citais, écrit le rejet de l'idéalisme hippie et de cette culture qui s'était enflée, qui était cooptée par le mainstream. C'était un passage important. La connexion donc, du beat a été importante aussi parce que ça montre que le punk n'est pas un phénomène aléatoire qui serait apparu dans le Lower East Side, mais qu'il est lié à un contexte du XXe siècle, d'autres formes subversives, d'expression subversive du XXe siècle, dont la contre-culture, dont il se voulait un rejet conscient. Je vais donc terminer là-dessus. Finalement, là où la contre-culture se voulait une forme de communauté, le punk était une histoire d'outsider. Et je voudrais, donc pour finir, signaler une demi-journée d'études jeudi prochain sur le thème psychédélisme, punk et techno, expérience croisée, donc à l'amphithéâtre François Furet au 105, à Boulevard Raspail, à l'EHESS. L'idée, c'est apparemment de comparer les punks égarés en technival aux Hells Angels qui prenaient des acides avec les Merry Pranksters. Donc on revient à cette comparaison de deux époques. Et je terminerai donc avec les hippies la prochaine fois.
Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ?
Bonjour. Ah, merci pour ton intervention. C'est toujours très compliqué parce que c'est vraiment très foisonnant comme thème. C'est vrai qu'il y a beaucoup de renvois de surface en ce qui concerne Burroughs. On avait eu l'occasion d'en parler dans les noms de... Dans les noms de groupes à l'époque, les Mugwump ou Steely Dan, par exemple, parce que c'est le nom d'un Godemichet dans... C'est le nom d'un Godemichet, donc dans le Festin Nu. Et on avait parlé du fait qu'il y avait ce sentiment d'émulation, parce qu'à côté du CBGB, il y avait un endroit où il y avait de la poésie lue, poésie beat. On participait à Orlovski, qui était l'ancien amant de Ginsberg, et il y avait Lirinaldo, donc de Sonic Youth, qui intervenait. Et puis on en avait parlé aussi tous les deux, c'était le fait que je pense que quelque chose qui est assez peu encore étudié, heureusement pour moi d'ailleurs, c'est qu'il y a eu ce bouquin de William Burroughs en 1970 qui est La Révolution électronique, où en fait il explique comment le fait de détourner certaines informations, certains sons, certains textes peuvent être utilisés en musique, et ça va être utilisé par tout ce qui est la vague post-punk et par la musique électronique en fait, ce dont on avait parlé ensemble. Voilà, voilà, c'était tout. Je te remercie.
Certainement, il y a certainement beaucoup plus d'influence du côté de l'électronique, finalement, que du punk, d'un point de vue musical, certainement.
Merci, Natacha, pour cette présentation. Le texte que tu nous as montré, c'est un texte d'un journaliste. Hein. Ouais. Là, on est vraiment dans la mise en récit, pour ouais, le coup, avec des photos qui sont presque des selfies entre artistes et... Et ma question était, à New York, il y a quand même une scène qui émerge après, qui est la No Wave, avec tout James Charles, justement, qui est plus dans le jazz et le free jazz. Et est-ce qu'il y a des connexions, justement, entre Burroughs, est-ce qu'il s'intéresse à ça, ou est-ce que ces jeunes artistes, comme Mars ou comme d'autres de cette scène-là, s'intéressent à ce personnage ?
Au secours Christophe, j'en ai aucune idée. Je sais que eux s'intéressent à Burroughs. Après, moi, j'ai pas eu de traces, mais j'ai sans doute pas assez cherché.
Excusez-moi, j'ai pas envie d'intervenir sur. Mais c'est vraiment le bouquin La Révolution électronique qui a été vraiment pour le coup une révolution, qui a eu une importance énorme pour tous les groupes après le punk, post-punk, new wave, no wave, etc. Enfin, Genesis Peerage de Strumming Gristle, donc à partir de 1975, va s'en servir pour justement avoir une réflexion sur le copyright avec toute l'ambiguïté du personnage qu'est Genesis Peerage, qui dit pas tout le temps la vérité, comme William Burroughs. Donc, mais là, je pense que l'influence se fait plus par ce texte-là qui est vraiment fondamental.
Et pour autant, je ne saurais pas dire si Burroughs a eu des... Il a eu énormément de coopération musicale donc avec les gens que j'ai cités et certainement d'autres. Maintenant, pour la No Wave, je ne sais pas. Mais c'est certainement à voir, ouais. Je ne sais pas s'il s'est intéressé. J'ai aucune idée. Apparemment, ça a beaucoup plus été le grunge, les choses. Mais tout ça, c'est monté par les médias. C'est vraiment, je comparais à Mandela, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, où c'est un peu une icône, un peu le papy qu'on ressort. Après, il y a eu des échanges, comme je disais, réels, sincères, mais je pense qu'il y a quelque chose d'une construction médiatique qui cartonne un peu le tout, quoi.
Kerouac, non, n'en parle pas. Dans le répertoire de la scène bostonienne, pour le coup, chez Willy Loco, par exemple, Willy Loco and the Boom Boom Band, pour ceux qui connaissent, et tous les groupes qui jouent au Rats à Boston, il a carrément une chanson qui s'appelle Kerouac, et où il dit « Tu es au sommet de ma bibliothèque », donc c'est quand même un hymne assez... à cette espèce de liberté et de marginalité revendiquée.
Voilà. Je n'ai pas parlé de Ginsberg non plus tellement, ouais. mais Ginsberg a été, par exemple, moi j'ai vu Patti Smith, enfin c'était pas réellement un concert, mais en tout cas qui faisait une lecture pendant 2 heures de Ginsberg. Je pensais plus à... Bon, j'ai parlé essentiellement de Burroughs et moins de Ginsberg et des autres, mais ils sont présents. Mais Burroughs, c'est vraiment quelque chose de centrale, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le plus lu, finalement.
Ben merci pour cette belle communication sur ces articulations essentielles.
Merci encore.